Et pour cette nouvelle émission Découverte, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien des États-Unis et de l'Allemagne qui ont lancé une nouvelle initiative pour endiguer une augmentation alarmante de l'antisémitisme et de la négation de la Shoah dans le monde. L'ambassade du Honduras a ouvert ses portes hier à Jérusalem. En cela, ce pays rejoint les États-Unis, le Guatemala et le Kosovo. Cela s'était passé le 21 juin 1943, arrestation de Jean Moulin, le chef de la résistance intérieure. Le 8 juillet 1943, il meurt des suites des tortures et des mauvais traitements en gare de Metz, donc en France. Alors qu'ils ont pratiquement disparu de la vallée du Nil, l'histoire des Juifs d'Égypte commence à intéresser de plus en plus les Égyptiens. Exposition virtuelle à Yad Vashem à Jérusalem sur les 80 ans de l'opération Barbarossa. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie et les forces de l'Axe lançaient une attaque surprise contre l'Union soviétique. Cette opération, connue sous le nom de code Barbarossa, va marquer un tournant dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale et en particulier pour le sort des Juifs dans la Shoah. Commence alors l'extermination de masse de la population juive, donc les meurtres par balles. Le rabbin de la Bundeswehr, il s'appelle Scholz Bala, il est le fils d'un officier hongrois et est en fait le premier rabbin nommé depuis 1945, une étape de plus dans la réconciliation de l'Allemagne avec elle-même. Normalisation entre Israël et le Maroc avec la coopération marocaine entre les agriculteurs des deux pays. Je vous parlerai également des Juifs de New York, la première communauté juive de la diaspora, et nous découvrirons ensemble l'histoire de Marc Bloch, l'un des plus grands historiens français du XXe siècle, qui était fusillé par les nazis le 16 juin 1944. Et sachez également que le musée de Dubaï ouvre une exposition permanente sur la Shoah. תלבשי לבן, תחשבי מחשבות בהירות. אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה בחירות. אני אלך לבד, והביטי בחלי, וביחד נהיה לרוב. בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. אני אלך לבד והביטי בחרי וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. תלבשי לבן וככה תצאי לבלות. בקיץ הזה נעשה חתונה ויהי חלקך עם הקלות. אני אלך לבד ואת ביתי בחרי וביחד נהיה לרוב. בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. אני אלך לבד והביטי בחרי וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. נצא מן הדעת בקיץ הזה ואחר כך נדע שלווה. יקרה לנו נס בקיץ הזה אם רק תלבשי לבן. כי אני אלך לבד והביטי בחרי כל יחד נהיה.
sazet il beshilava betit paleriret ol la 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 la
Et c'était les groupes à Doudaïm et à Parvarim. Les États-Unis et l'Allemagne ont donc lancé une nouvelle initiative pour endiguer une augmentation alarmante de l'antisémitisme et de la négation de la Shoah dans le monde. Les deux gouvernements annoncent le début d'un dialogue américano-allemand sur la Shoah qui vise à inverser la tendance qui a gagné du terrain pendant la pandémie du coronavirus. Le dialogue crée un moyen de développer des outils éducatifs pour informer notamment les jeunes sur les crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs. Le secrétaire d'État américain M. Anthony Blinken, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et plusieurs survivants de la Shoah étaient présents pour le lancement au mémorial des Juifs assassinés d'Europe à Berlin. La négation de la Shoah et d'autres formes d'antisémitisme vont souvent de pair avec l'homophobie, la xénophobie, le racisme et d'autres formes de haine, a déclaré M. Blinken, qui est le beau-fils d'un survivant de la Shoah. C'est aussi un cri pour ceux qui cherchent à abattre nos démocraties, ce que nous avons vu dans nos deux pays est souvent précurseur de la violence, a-t-il affirmé. M. Maas a fait écho aux commentaires de M. Blinken, soulignant l'importance de l'Allemagne, le pays des auteurs, a-t-il dit, qui joue un rôle de premier plan dans le projet. Ces dernières années, nous avons vu l'antisémitisme et le racisme ronger notre société, a déclaré M. Maas. Il suffit de penser au badge de l'étoile jaune, vu lors des manifestations contre les mesures relatives au corona, au torrent de théories du complot antisémite sur Internet, aux attaques contre les synagogues et contre les juifs vivant dans nos pays, aux émeutiers devant le Bundestag ou la foule déchaînée dans la capitale américaine, a-t-il ajouté. Et je voudrais préciser donc qu'Anthony Blinken est le beau-fils de Samuel Pizard, donc survivant de la Shoah. Fruit de la politique appliquée par Donald Trump et de l'amitié personnelle entre Benjamin Netanyahu et le président hondurien Juan Orlando Hernández, l'ambassade du Honduras a donc ouvert ses portes hier à Jérusalem. En cela, ce pays rejoint les États-Unis, le Guatemala et le Kosovo. Le président hondurien était présent à la cérémonie, ainsi que le premier ministre israélien M. Naftali Bennett, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, ainsi que les deux ambassadeurs respectifs. Les excellentes relations entre les deux pays datent d'il y a une trentaine d'années déjà, où en Israël, on avait, je dirais, repéré Juan Orlando Hernández comme une personnalité qui aurait dans l'avenir beaucoup d'influence dans la politique du pays. De nombreux contacts eurent donc lieu. Juan Orlando Hernández suivit même un stage au ministère israélien des Affaires étrangères et lorsqu'il fut élu à la présidence il y a de cela 7 ans, l'une de ses premières décisions fut de renforcer de manière significative les liens entre les deux pays. Il s'est donc rendu depuis à 4 reprises en Israël et s'est lié d'amitié avec Benjamin Netanyahou, qu'il considère comme un modèle à imiter. La décision d'ouvrir une ambassade à Jérusalem s'est faite en échange de la réouverture d'une ambassade d'Israël à Tegucigalpa. Tegucigalpa, la capitale, du Honduras.
שוקולד שאני עצובה
C'était Sarit Haddad. L'histoire des Juifs d'Égypte retrouve sa place dans le pays. En effet, alors qu'ils ont pratiquement disparu de la vallée du Nil, l'histoire des Juifs d'Égypte commence à intéresser de plus en plus d'Égyptiens, une histoire objective, loin des clichés frisant l'antisémitisme qui prévalait depuis la création de l'État d'Israël en 1948 jusqu'à il y a tout de même une douzaine d'années. La maison d'édition Dar al-Shourouk va donc publier coup sur coup deux ouvrages sur la question. Le premier livre est intitulé « Les Juifs d'Égypte au XXe siècle, comment ils ont vécu et pourquoi ils sont partis ?» Son auteur est le penseur laïque Mohamed Aboulgar, qui indique avoir écrit son livre pour souligner l'importance de la citoyenneté et du vivre ensemble. En plus des recherches dans les archives civiles et religieuses de la communauté juive d'Égypte, Mohamed Aboulgar a réalisé une série d'interviews avec des membres de la diaspora de la vallée du Nil en Occident. Et selon lui, les Juifs d'Égypte sont restés nostalgiques d'un pays que certains considèrent toujours comme le leur. L'autre livre, ce sont les mémoires d'Albert Arié, ce juif égyptien décédé il y a quelques mois à l'âge de 90 ans. Arié a fait 11 ans de prison sous Nasser pour marxisme. Le fait qu'il soit un militant antisioniste n'a pas été considéré comme une circonstance atténuante. Et ces dernières années, Arié était considéré par les médias égyptiens comme un sage, un ami des plus défavorisés. Mais l'édition n'est pas le seul signe du changement de la manière de percevoir les Juifs en Égypte. L'année dernière, la grande synagogue Eliyahu Hanavi d'Alexandrie était inaugurée en grande pompe après sa restauration par le gouvernement égyptien. Un geste que les Juifs égyptiens et ceux de la diaspora ont considéré comme une reconnaissance du rôle important de la communauté dans l'histoire de l'Égypte moderne. Cette communauté de 80 000 âmes a pâti de la création de l'État d'Israël en 1948. Du fait des brimades sociales et des agressions contre leurs biens, ils ont donc commencé à quitter le pays par milliers. En 1956, 30 000 Juifs d'Égypte ont été expulsés par Nasser après la confiscation de leurs biens et c'était au lendemain de l'intervention militaire israélo-franco-anglaise sur le canal de Suez. Les États-Unis et surtout la France, car la plupart des Juifs d'Égypte étaient francophones, ont été leur destination de prédilection. Peu ont émigré en Israël. La représentation des Juifs d'Égypte revient de loin. Dans les années 60, il y avait encore des placards de propagande, presque une réédition de celle des nazis, nez crochu, main griffue et regard démoniaque. En 2002, un feuilleton inspiré des protocoles des sages de Sion, un brûlot tsariste antisémite, a été diffusé sur la télévision égyptienne. Et plus récemment, en 2010, Mohamed Morsi, le chef du parti Liberté et Justice des Frères musulmans et qui allait devenir en 2012 le premier président démocratiquement élu d'Égypte, déclarait, je le cite, « Les Juifs sont les descendants des singes et des cochons ». Fin de citation. Plus près de chez nous, en Allemagne, Scholz Bala, c'est son nom, qui est le fils d'un officier hongrois, est le premier rabbin nommé en Allemagne depuis 1945, une étape de plus dans la réconciliation de l'Allemagne avec elle-même. À 42 ans, Scholz Bala est le premier grand rabbin nommé à l'aumônerie militaire de la Bundeswehr, l'armée allemande, depuis un siècle et 76 ans après la Shoah. La cérémonie a eu lieu le mardi 22 juin après-midi à la synagogue de Leipzig, dont Scholz Bala est le rabbin depuis 12 ans déjà. L'impressionnante brochette de dignitaires présentes souligne l'importance que l'Allemagne tient à donner à cet événement. Aux côtés de Joseph Schuster, le président du Conseil central des Juifs en Allemagne, se trouvaient Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense, Michael Kretschmer, ministre-président de Saxe, ainsi que les évêques militaires de confession chrétienne. Les sympathies pour l'idéologie d'extrême droite antisémite dans l'armée allemande ont été dévoilées au grand jour par plusieurs affaires au cours des dernières années. Des cellules d'extrême droite ont été découvertes, en effet, dans les rangs de la Bundeswehr et au sein même de ces unités d'élite, les commandos de forces spéciales, les KSK, basés en Forêt-Noire. Lors d'une fête pour le départ d'un de ses membres, des têtes de cochon avaient été exposées au son d'un rock identitaire, tandis que plusieurs soldats faisaient le salut hitlérien. Après enquête, l'unité a été dissoute en partie en juillet dernier. Ce scandale a beaucoup agité le pays. La pointe de l'iceberg, point d'interrogation, on estime que quelques 600 soldats allemands flirteraient plus ou moins ouvertement avec les idées d'extrême droite, dont 20 dans des unités d'élite. Son respect pour l'armée, il le tient de son père, officier dans l'armée hongroise, un enfant pauvre qui, en s'enrôlant dans l'armée, échappe à la misère. Rien ne prédestinait pourtant Scholz Bala, né à Budapest en 1979, à une carrière de rabbin orthodoxe. Il grandit dans une famille athée où la religion juive ne joue aucun rôle. Il a 9 ans quand sa mère lui apprend qu'il est juif. C'est pendant qu'il fait des études d'ingénieur à Budapest qu'il explore ses racines juives. Il s'inscrit alors dans le tout nouveau séminaire orthodoxe fondé en 2002 à Berlin et au terme de ses études devient le rabbin de la petite communauté juive de Leipzig et du Land de Saxe dans l'ex-RDA. Deux positions qu'il occupe depuis 12 ans et qu'il continuera à honorer à temps partiel en même temps que ses nouvelles fonctions à la Bundeswehr. Il sera là pour apporter son soutien à tous les soldats de la Bundeswehr, quelle que soit leur confession, et pour leur prodiguer des cours sur l'histoire des religions. Une mission préventive pour faire barrage à l'antisémitisme et au racisme. « Quand je suis arrivé en Allemagne il y a 19 ans, reconnaît-il, j'étais animé par des sentiments ambivalents. Aujourd'hui, il est reconnaissant de vivre dans un pays qui s'est confronté à son passé et qui lutte pour un monde meilleur. Je sens la responsabilité qui pèse sur mes épaules. La nomination de Scholz Bala est une pierre de plus dans le laborieux travail sur le passé effectué par l'Allemagne. »
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
Et vous aurez certainement reconnu Leonard Cohen avec Hallelujah. Je voudrais maintenant vous parler de la coopération marocaine avec les agriculteurs israéliens. En effet, le processus politique apporte des nouvelles importantes pour l'agriculture israélienne. Une importante délégation du Maroc viendra promouvoir la coopération avec les agriculteurs israéliens. Des mois après la normalisation et l'accord avec un certain nombre de pays arabes, dont le Maroc, il semble que le processus politique apporte de nouvelles importantes pour l'agriculture israélienne. La semaine prochaine, il y aura une réunion spéciale et unique en son genre d'une vaste délégation du Maroc pour promouvoir les collaborations et l'entrepreneuriat intégré. Il y a 3 mois, nous avons créé une association pour promouvoir les relations et les activités entre le Maroc et Israël avec une centaine de personnes de l'industrie de la culture et de l'agriculture en collaboration avec l'Association pour l'avancement de la culture et de l'industrie Maroc-Israël. Cela les a dissuadés, ils veulent venir coopérer et aller de l'avant avec nous. C'est ce qu'a déclaré l'avocat Raphaël Peretz, qui dirige la coopération côté israélien. Alors l'info qu'il ne faut surtout pas manquer, à Tel Aviv, on peut vivre de sushis et d'eau fraîche, paraît-il. Et le 18 juin, c'était la journée internationale du sushi. Et parce que l'occasion fait le larron, on s'est dit que c'était le moment idéal pour vous parler encore de Tel Aviv. Eh bien oui, parce qu'au-delà des falafels sur le pouce, des cafés à four et des borekas à toute heure du jour et de la nuit, à Tel Aviv, on mange des sushis. La ville blanche est même le 3e marché de consommation de sushis par habitant au monde, derrière New York et Tokyo, avec plus de 100 restaurants japonais. Il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas de sushi. On peut un petit peu rigoler. Étant nous-mêmes de grands amateurs de poissons crus, on vous propose ici à Radio Judaïka notre shortlist des meilleurs restos de sushi à Tel Aviv. Alors tout d'abord, je vous propose de vous rendre chez Okinawa, qui se trouve rue Shabazi numéro 46, pour ses makis aussi beaux que bons. Et la rue Shabazi est en plein cœur de Neve Tzedek, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi le restaurant Kanki sur la Bograchov numéro 23. Pour sa carte cachère et variée, et parce qu'on y croise toujours quelqu'un qu'on connaît. Et enfin, le TYO, Teyo, sur Montefiore numéro 7, pour la façade du restaurant qui ressemble à une très belle maison et une carte haut de gamme, toujours en matière de sushi.
Levater ve לתת יותר עד שתיוותר רק אהבתנו יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן יום יום וליל כל הזמן יחד
C'était Matti Caspi avec Britta Olam. Éclairage à présent sur les Juifs de New York, la première communauté juive de la diaspora avec 1,6 million de Juifs. New York abrite en 2021 la première communauté juive de la diaspora et de fait le centre névralgique et idéologique du judaïsme mondial. Toutes les grandes organisations juives internationales y ont leur siège, ou y sont en tout cas fortement représentées. Des Juifs vivaient déjà à New York avant même que la ville ne porte ce nom, et surtout c'est à New York que l'on rencontre la plus grande variété de Juifs, des orthodoxes aux libéraux, en passant par les Boudjous, des Juifs qui pratiquent le bouddhisme. Certains aiment dire que New York est la Jérusalem du Nouveau Monde. Vivent ici, dit Corinne Levitt, l'une des meilleures spécialistes de la question des Américains juifs et des Juifs américains. Les premiers vivent aux États-Unis depuis plusieurs générations et sont profondément américanisés. Les seconds arrivés plus récemment ont conservé les mœurs de leur terre d'origine. Certains sont français, d'autres viennent d'Israël, 150 000 tout de même à New York, d'Allemagne et de Pologne, de l'Empire austro-hongrois, de Russie ou d'ailleurs. Ils sont de nationalité américaine ou sur le point de l'être. Pour le sociologue Michel Maffesoli, ils font partie des tribus urbaines. Ils étaient 23, les premiers juifs à avoir mis les pieds à New York. C'était en 1654 et la ville s'appelait alors la Nouvelle-Amsterdam. Débarqués d'un navire, le Saint-Charles, ils sont très mal accueillis par le gouverneur Peter Stuyvesant, comme les cigarettes, qui n'hésite pas à les qualifier de race fourbe, de blasphémateurs et ennemis du Christ. Menacés d'expulsion dès 1655, victimes de mesures vexatoires et de limitations d'activité, ces premiers juifs vont faire le gros dos et il faudra attendre la conquête anglaise en 1664 pour pouvoir se sentir un peu plus libre. Toutefois, comme la Charter of Liberty, promulguée en 1683, n'autorisait que les chrétiens à pratiquer leur religion en public, la première synagogue new-yorkaise, Shearit Israël, ne voit le jour qu'en 1729. Entre 1654 et 1820, la communauté juive, certains préfèrent dire la société juive, va se construire peu à peu. En 1820, il y a 60 000 juifs à New York. 1821 marque un événement notable, une première en tout cas, un juif, Mordechai Manuel Noach, membre du Parti démocrate, est élu High Sheriff de New York. Il sera plus tard consul à Tunis. Dans l'ensemble, à cette époque, les juifs pratiquent le commerce derrière un comptoir ou à cheval à travers leur campagne. Leur spécialité, c'est l'achat et la vente de biens en tout genre. Entre 1870 et 1920, le nombre de juifs va croître de manière exponentielle. Ils sont 4% de la population en 1870 et passent à 29% 50 ans plus tard. Le commerce n'est plus leur préoccupation principale, même si beaucoup se lancent dans le porte-à-porte. Les voilà qui s'impliquent dans l'industrie vestimentaire, la fabrication du verre, la confection de cigares. En 1930, la moitié des médecins, des dentistes, des avocats et des instituteurs new-yorkais sont juifs. En 1930 aussi, on voit un juif d'origine italienne, Fiorello La Guardia, être élu maire de la ville. Les juifs s'impliquent désormais fortement en politique et dans le combat syndical. Ils sont très nombreux au sein des sections du Parti socialiste à Manhattan et dans le Bronx. Et dans les années 30, 40% des membres du Communist Party of the USA sont juifs. On parle à présent ouvertement d'un vote juif. La vie juive donc s'organise, les synagogues se construisent et désormais les juifs disposent d'un quotidien, le Forward. D'un point de vue religieux, les juifs de New York se répartissent entre orthodoxes pour 14%, réformés pour 34%, conservateurs et reconstructionnistes pour 1%. Il existe également à Harlem une congrégation de juifs noirs, l'Ethiopian Hebrew Congregation, qui compte 2000 membres. En 1972, pour la première fois, une femme, Sally Prisant, a été ordonnée rabbin. Le mouvement réformé s'est largement ouvert aux homosexuels et il existe en son sein des rabbins homosexuels. Quant au hassidisme, on peut considérer que New York est la ville au monde où vivent le plus grand nombre de sectes hassidiques formant de véritables enclaves, Lubavitch, Satmar ou encore Bobovers. Bien que les Juifs de New York se soient très tôt investis dans l'action sociale et l'aide aux défavorisés, devenant notamment les plus fervents partisans de la discrimination positive, on constate depuis quelques années un refroidissement des relations avec la communauté noire. Enfin, dans le domaine des arts et de la culture, la contribution des Juifs de New York est tout à fait exceptionnelle, malgré les aléas dus à l'évolution de la situation internationale et du conflit israélo-arabe. Nul doute que les enfants de Woody Allen vivent heureux en 2021 dans la Golden Medina et que tout compte fait à New York, Jewish is beautiful. Je vous propose maintenant de découvrir l'histoire de Marc Bloch, l'un des plus grands historiens français du XXe siècle, qui a été fusillé par les nazis le 16 juin 1944. Marc Bloch était issu d'une famille de juifs alsaciens qui ont choisi d'émigrer en France après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. En 1914, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale et on lui décerne la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Après la Première Guerre mondiale, il enseigne l'histoire à la faculté de Strasbourg. Il se dresse contre une vision trop événementielle de l'histoire. Son ouvrage majeur, La société féodale, témoigne de sa nouvelle approche qu'il souhaite promouvoir. L'historien montre ainsi de façon vivante comment se sont tissés les liens féodaux au cours de l'époque carolingienne. La Seconde Guerre mondiale va changer le cours de sa vie, malheureusement. À 54 ans, le 24 août 1939, il est à nouveau mobilisé, cette fois en tant que capitaine d'état-major, malgré le fait qu'il ait 5 enfants à charge. En 1943, l'intellectuel juif met sa famille à l'abri avant de rejoindre la résistance dans le groupe Franc-Tireur. À la suite de cette expérience, il publie un ouvrage, L'étrange défaite, finalement, Marc Bloch est fusillé par les nazis. C'était le 16 juin 1944 près de Lyon avec d'autres résistants. Il tombe en criant « Vive la France !» N'oublions pas cette grande figure de l'histoire de France, fusillé en 1944 par les nazis.
Daheim bin ich jung geblieben. Es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd, weit von Mammes Augen. Hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Wäuleriat. Ich bin a Freimel, der fähigste Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, bis und heut, a rein in die Füße, verlackenen a Bräut. Oi, oi, ich fahr nicht auf Marken, wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich heie, wenn ich tapp als a Magnat. Ich bin a Wremel, gor a Wäuleriat. In der Fremd, nicht gehabt zum Leben, gebeten Bräut, an Ormer pflegt noch geben. Nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst a Ganef, süß mir Kuhem geworden. A Ganef bin ich nur a Wäuleriat. Ich bin a Wremel, der fähigste Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. A jatta kleiner, a rein in Kutschement, a reus a massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich fahr nicht auf Marken, wie jene proste Jacken. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich hab lieber Menschen, a milden, a naschbrat. Ich bin a Wremel, gor a Wäuleriat. Scheu nicht lang, wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Füße meuern. Nur ein Bakosch, ich wollt a soi gewollt. Noch mein Teut in a Tag ertrieben. Soll auf mein Matzewe stehen geschrieben. Mit euch jes Größe und von Gold. Da liegt a Wremel, der fähigste Marwicher. A Mensch, a größer Gewein, wollt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein er will. Ai, ai, wenn ich berühm, wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn er noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Da liegt aber Himmel jener Wäuleriat. Wacht am Mammes Augen, wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn er noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber einmal jener Wäuleriat.
C'était bien sûr Chava Halberstein. Sachez qu'un musée de Dubaï ouvre une exposition permanente sur la Shoah. au musée des carrefours des civilisations Crossroads of Civilization Museum à Dubaï, We Remember est la première expo permanente de ce type à commémorer la Shoah dans le monde arabe. Elle présente d'ailleurs des témoignages de rescapés. La communauté juive s'est considérablement développée aux Émirats Arabes Unis avec des juifs qui viennent d'Israël, des États-Unis ou encore d'Europe. C'est ce qu'a indiqué Levi Durman, le rabbin aux Émirats Arabes Unis. Alors que notre communauté continue de croître, c'est très important pour nous de bâtir les fondations de la communauté, a-t-il poursuivi. Le fait que ce musée commémore la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose d'important. C'est un endroit où l'on peut venir avec nos enfants, on peut faire venir les écoles ou des communautés différentes pour qu'elles voient l'histoire des Juifs et de ce qu'ils ont enduré en Europe. Pour rappel, plus de 6 millions de Juifs ont été assassinés par les nazis. Cette expo a pour objectif de transmettre le souvenir de la Shoah et de susciter une prise de conscience parmi les ressortissants de plus de 200 nationalités qui vivent à Dubaï. L'exposition intègre aussi une section dédiée aux Arabes et musulmans qui ont aidé à sauver des Juifs. C'est l'un des plus grands crimes contre l'humanité. C'est vraiment important pour nous d'évoquer cela en parallèle de nos autres galeries où il est question de la tolérance et des trois religions monothéistes. C'est ce qu'a précisé Yael Graffi, conservatrice au musée des carrefours des civilisations. Nous voulions montrer l'espoir et présenter les personnes, les musulmans et les gens de la région qui ont aidé à sauver des Juifs, a-t-elle ajouté. Quant au rabbin Levi Durman, il renchérit « Quand on regarde l'histoire de la région, les Juifs et les Arabes ont toujours vécu ensemble, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Syrie ou encore au Liban. Pour ne citer que quelques pays, il y avait de fortes communautés juives. » Parmi les personnalités présentes au sein de la galerie, Selahattin Ulkumen, le diplomate turc qui a sauvé des Juifs de Rhodes de la déportation, et le docteur Mohamed Elmi, médecin égyptien qui a évité à plusieurs Juifs d'être persécutés par les nazis à Berlin. Il a fait des études à Berlin et il y est resté par la suite pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte Yael Graffi. Il a vu ce qui arrivait aux gens autour de lui et à lui-même en tant que musulman, parce que le régiment nazi ne visait pas uniquement les Juifs. Il a donc lui-même décidé de sauver plusieurs familles et grâce à lui, elles ont échappé à la Shoah. Évidemment, c'est très émouvant quand on parcourt l'exposition, quand on voit toutes les photos et que l'on lit les histoires de ces personnes. Et cela renforce aussi ce souvenir, estime le rabbin Levi Durman, ce qui est utile pour consolider nos racines, pour nos enfants, pour les générations futures, car on comprend l'importance du travail en commun et de la coexistence pour construire des communautés unies aux Émirats, dans la région et le monde entier. Nous avons besoin d'adhérer à ces valeurs, insiste-t-il. À l'heure où le Moyen-Orient s'ouvre et normalise peu à peu ses relations, le fondateur du musée estime que cette exposition tombe à point nommé. Il y a eu ces derniers temps de très nombreux incidents, de nombreux signes d'une montée de l'antisémitisme et du racisme dans le monde. Donc je crois que c'était vraiment le moment pour nous de présenter cette expo, juge Ahmed Obaid Al-Mansouri. Aux Émirats, nous avons un système en place, la culture de l'unité, de la solidarité. Et c'est pour cela que les gens viennent ici. Ils ne viennent pas pour le pétrole ou pour l'argent, mais parce qu'ils se sentent chez eux. C'est un pays où les meilleurs profils du monde entier s'installent. Il y a de la beauté dans la différence et où les gens peuvent apprendre de notre expérience en matière d'unité et nous pouvons transmettre cela à l'extérieur. Comme son nom l'indique, le musée des carrefours des civilisations a été créé pour mettre en avant les valeurs d'ouverture et de multiculturalisme. Cette expo vise à montrer les leçons que l'on peut tirer de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Il y a des choses qui se passent dans l'histoire et nous devons les étudier, nous concentrer sur les aspects positifs, apprendre des erreurs et s'assurer que cela ne puisse pas se produire de nouveau, insiste Ahmed Obaid Al-Mansouri. Quant à Yael Graffi, elle conclut « Vous pouvez lire la phrase que nous avons affichée à la fin de l'exposition. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelle que soit votre religion, en sauvant une personne, c'est donc le monde entier que vous changez. » We'll be right back.
schönste Männer, mache den schönste Getreie. Lass mir sehen, auf Feibig mache tun ihm. Lass mir sehen, auf Feibig mache tun ihm. Ihr geh mich weg, meine Tochter verhascht nie. Sie soll bald nicht tun, wer du spun ihm. Ihr geh mich weg, meine Tochter verhascht nie. Sie soll bald nicht tun, wer du spun. Mach ein Mann, mach ein Stück Reihe. Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Und Tommel wird dir sein, ein Auge auf mein Kind. Wie eine eigene Mama soll dir das verdecken. Und Tommel wird dir sein, ein Auge auf mein Kind. Wie eine eigene Mama soll dir das verdecken.
Sachez que I24 News a annoncé lundi une série d'accords avec les Émirats arabes unis, parmi ceux-ci l'ouverture d'un bureau permanent à Dubaï. La normalisation des relations entre Israël et les Émirats n'est pas qu'une signature au bas d'un parchemin et s'illustre chaque jour par un accord concret. I24 News et le conglomérat Abu Dhabi Media se sont donc entendus sur un échange de contenu entre leurs rédactions basées dans les deux pays. I24 News, propriété de Patrick Drahi, a donc annoncé l'implantation d'un bureau permanent à la Media City de Dubaï. Et pour Frank Melloul, PDG d'I24 News, l'accord illustre une volonté commune de mettre sur pied la fibre de la paix, une ligne de fibre optique reliant le Golfe à Israël via la Jordanie, afin de connecter entre autres les studios des Émirats à ceux de la chaîne à Tel Aviv. I24 News, qui diffuse en français, en anglais et en arabe, échangera aussi des contenus avec l'éditeur du quotidien anglophone Gulf News et avec le ministère émirati du tourisme. Des publicités télévisées assureront la promotion de la monarchie du Golfe et un slogan est né, le cœur d'un nouveau Moyen-Orient bat sur I24 News. In fine, à ce jour, voilà qui vient s'ajouter à la mise sur pied des lignes aériennes directes, à la nomination d'ambassadeurs et à la multiplication d'échanges commerciaux.
Der Wind über die Felder gingen freiler wie Amor. Lacht und springt über die Wälder, über Wagen, über Tor. Eus läuft der Wind über die Felder gingen freiler wie Amor. Lacht und springt über die Wälder, über Wagen, über Tor. Знать, еще горит, горит моя звезда. Да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя. In es tanzen alle Bäume mit den Zweigen in der Rot. In es singen alle Jamen, Gurve, Feiglichen, Assort. Oh, sehen, wir tanzen alle Bäume mit den Zweigen in der Rot. In es singen alle Jamen, Gurve, Feiglichen, Assort. Znat, еще горит, горит. Моя звезда, да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя. Лети, мой конь, мой белый сын, метели и огня. Привези меня же к милой, вишь, тоскует без меня. Ой, ты лети, мой конь, мой белый сын, метели и огня. Привези меня же к милой, вишь, тоскует без меня. Знать, еще горит, горит моя звезда, да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя, моя мечта, весна моя, моя мечта, весна моя.
Et c'est donc avec le chanteur Jacques Robert que se termine cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, je vous retrouverai, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous rappelle que cette émission est toujours rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Quant à la suite du programme sur les ondes de Radio Judaïka, eh bien, vous retrouverez bien sûr les informations en direct de Jérusalem et de Tel Aviv. Et en attendant, bien sûr, je vous souhaite Shabbat Shalom, Agit Shabbos et à la semaine prochaine.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie. Avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
יום ראשון מסתכל בשעון, מתהפך במיטה. ואיך לא בא לי, איך אומרים החיים זה תמיד עבודה. זה לא נראה לי, בשני ושלישי טיפה עצבני. זה שוב קורה לי, רביעי כבר נגמר, חמישי מאושר. והנה מחר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. לילה 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 מחייג לחבר, לך תשים בגד ים, כי מה זה חם לי, אבא שוב מתקשר, אל תאחר. שאמא לא תחנוק אותנו, אז אני מתארגן, זה כבר מתנגן. והנה זה בא יום השישי, ויחולו השמיים והארץ בכל צבע, ויחל אלוקים ביום. אשר עשה. שכחתי זה עוד יום של חג בשביל כולנו, איך הגוף מגרד לי, מרגיש מיוחד כי זה אנחנו, אז נצא לבלות ונחזור בחמש או שש בבוקר, עוד שבוע נגמר והנה מחר, אז לך אני שר יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. לילה 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 לילה
Trouvez-nous sur radiojudaica.be.
אישה חזקה, תמיד מדברת, אומרת את מה שחושבת ולא, היא לא מתחילה.